Cet après-midi, j'aimerais vous parler d'un texte, c'est Job chapitre 3. Job chapitre 3, nous allons le parcourir ensemble durant ces quelques minutes. Nous savons que le livre de Job, alors, même si on n'a pas fait de l'hébreu, en français déjà, on sent bien qu'il y a une verve poétique très forte. En hébreu, alors c'est un hébreu assez primitif. On estime que le livre de Job est peut-être le plus vieux livre de la Bible, si ce n'est le plus vieux livre de l'humanité tout entière. Donc c'est un langage hébraïque assez simple, donc difficile à traduire, parce qu'un même mot peut avoir beaucoup de sens. Mais vous allez voir en même temps la profondeur de ce texte, quand on l'étudie de près. C'est un texte très sombre, très noir, très pessimiste, et néanmoins, il y a eu l'approbation divine sur ce texte. C'est-à-dire que Dieu a accepté que ce texte soit dans la Bible. On en parlera sans doute une autre fois, mais Job se plaint, et ce n'est pas le cœur de Dieu de se plaindre ainsi, c'est le cœur d'un homme. Néanmoins, Dieu, encore une fois, a permis que ce texte soit dans la Bible, et pour moi, c'est une source d'encouragement. C'est-à-dire que nous avons un Dieu qui ne triche pas et qui est au fait de nos souffrances. La Bible, c'est pas une histoire simplement merveilleuse, même si elle est merveilleuse, cette histoire, in fine. Mais c'est pas simplement un conte, une allégorie, une doxologie qui permet de mettre Dieu en valeur. Il y a aussi les souffrances humaines qui sont présentées. Il y a le péché de l'humanité, la responsabilité de l'homme d'avoir désobéi à Dieu, et qui a engendré cette souffrance. Mais néanmoins, Dieu la comprend. Dieu accepte que cette souffrance soit écrite noir sur blanc dans son livre. Il a accepté que ça soit écrit. Et donc, si on compare Dieu à un éditeur, l'éditeur a autorisé ce texte. Il n'y a pas eu de censure. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'il en est dans notre vie. Dieu nous demande d'obéir, Dieu nous demande de marcher par la foi, il nous reprend, mais il ne nous censure pas. Ça reste une relation vivante avec lui. Nous sommes ce que nous sommes. Nous devons, encore une fois, accepter ce que lui nous demande. Il va des fois nous corriger de manière très forte, très dure. Mais néanmoins, il ne nous censure pas. Nous sommes créés à son image, nous sommes libres. Nous vivons, nous existons. Et Dieu en est conscient. Et c'est pour ça qu'il peut s'identifier aussi. Il peut compatir à nos faiblesses. Donc même s'il n'est pas d'accord avec ce qui est dit, néanmoins, il est à l'écoute de chaque épreuve que nous traversons, de chaque épisode de l'existence que nous subissons. Il est conscient de ce que nous ressentons. Il est à l'écoute de ce que le pécheur traverse. Et comme le psalmiste dit en psaume 116, versets 1 et 2, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. » Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Et dans le livre de Job, nous voyons bien évidemment Dieu pencher son oreille sur Job. Nous savons, chapitre 1 et 2, qu'il y a une guerre spirituelle entre Lucifer et Dieu, et donc Dieu est en guerre contre le royaume des ténèbres. Mais néanmoins, il va s'occuper de Job personnellement. Il va prendre soin de lui, il va lui parler, il va le corriger, il va le bénir, mais il va aussi permettre des épreuves. Et dans ce chapitre 3, il y a à peu près trois parties. Je ne sais pas si on aura le temps de les voir toutes cet après-midi, mais trois parties qui se ressemblent. La première partie, c'est que Job souhaite ne jamais être né. La deuxième chose qu'on voit, c'est que Job souhaite ou aurait souhaité être mort-né. Et la troisième chose, c'est Job souhaite mourir maintenant. Donc vous voyez que c'est pas très encourageant, c'est pas très joyeux, mais peut-être qu'on est tous passés un peu par là, où on s'est posé cette question, pourquoi la souffrance? Pourquoi je subis telle ou telle chose? J'ai l'impression de ne pas être responsable, et parfois nous ne le sommes pas responsables de ce qui nous arrive. On peut traverser des malheurs, des souffrances, sans comprendre pourquoi. Parfois, il y a des raisons, mais on ne les connaît pas, donc on repose la question, pourquoi? Et c'est ce que Job va faire 5 fois dans ce texte, il va poser la question, pourquoi? Et comme on n'a pas la réponse, on se dit, mais à quoi bon, pourquoi j'existe? Pourquoi, est-ce que ça valait le coup que je vive pour vivre ce que je suis en train de vivre? Est-ce que ça vaut le coup de vivre pour être ce que je suis? Est-ce que ça vaut le coup de vivre pour subir ce que les autres me font subir? Est-ce que ça sert à quelque chose de vivre si finalement on ne va pas rester là éternellement? Alors, s'agissant de cette question, la dernière, on a la réponse. Nous savons que nous allons vivre éternellement avec Dieu, donc on a au moins cette réponse-là. Mais en tant que chrétien, on peut se poser la question, à quoi bon vivre tout ce que je traverse? Et on va voir un petit peu ensemble quelles étaient les passions, les émotions, la douleur que traversait Job. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ce livre que Job, en 24 heures, a perdu tous ses biens. Donc c'était quelqu'un de très riche. Quand vous n'avez rien, vous perdez pas grand-chose. Mais quand vous avez beaucoup, vous perdez beaucoup. Et lui, il avait énormément de troupeaux, il avait des terres, et tout ça lui est retiré. Et puis ensuite, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des enfants qui meurent, ses propres enfants, un après l'autre. Les nouvelles arrivent. Et à chaque fois, c'est une mauvaise nouvelle. Vous savez, derrière un enfant, il y a des souvenirs. Il y a des émotions aussi, des joies, des peines, une attente, une vision, une espérance, un amour, un lien. Et donc, vous apprenez la mort d'un de vos enfants, et il y a tout ça qui revient. Et puis, lui, il n'a pas encore le temps de digérer tout ça. C'est qu'il y a un deuxième enfant qui est perdu. Et de nouveau, les émotions qui arrivent. Et puis, un autre enfant. Et puis encore un autre. Et puis une fois qu'il a tout perdu, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste son épouse, je ne vais pas en parler cet après-midi. Et puis il lui reste sa propre vie, son âme, son esprit et son corps. Et là, son corps est attaqué. Il a des plaies purulentes qui le fait souffrir énormément. Il est obligé de prendre un tison et se gratter le dos tellement ça le ronge. Donc son corps est meurtri. Il n'y a pas simplement son âme qui est meurtrie, mais aussi à son corps. Et donc tout dans sa vie est un désert. Dans son esprit, il n'y a plus d'espérance. Il ne voit plus Dieu à l'œuvre dans sa vie de façon positive. Dans son âme, il y a le désespoir le plus complet. Et dans son corps, il y a ce souhait de ne plus souffrir, que tout ça s'arrête. Et donc c'est ce qu'il est en train d'exprimer là dans ce texte. Au verset 1, il est dit « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit « Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. » En français, dans cette version que j'ai, il est dit « Maudit le jour de sa naissance » mais littéralement c'est « Maudit son jour ». C'est-à-dire que notre jour, c'est le jour de notre anniversaire, en fait, c'est le jour de notre naissance. Et il dit « maudit ce jour » ou « maudit son jour ». Ce qui est intéressant, c'est que même s'il va se plaindre un peu plus tard de Dieu, en tout cas, il ne va pas le maudire, il ne va pas maudire Dieu. C'est-à-dire que Job maudit sa propre existence, mais il ne maudit pas l'existence de Dieu. Vous voyez le point intéressant quand même? Encore une fois, comme il ne comprend pas certaines choses, il va se plaindre après auprès de Dieu, il va en vouloir à Dieu, mais il ne va pas le maudire. C'est sa propre personne qu'il maudit, c'est son existence même. Il aimerait pouvoir se rejeter lui-même. se chasser, se renvoyer. Et il voulait en fait que le jour de son anniversaire soit effacé du calendrier. On voit ça au verset 6, hein, on ira un peu plus loin dans le texte après, mais déjà je peux vous dire, au verset 6, il est écrit « Cette nuit-là, que l'obscurité s'en empare, c'est-à-dire la nuit où il est né, qu'elle ne se réjouisse pas avec les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. » C'est-à-dire qu'il aurait aimé que le jour de son anniversaire soit pas sur le calendrier. Donc si le jour n'existe pas, lui non plus n'existe pas. C'est une métaphore, n'oublions pas que c'est un poème hein, que Job a écrit. Et puis ensuite, il fait référence à la nuit. Il la voit comme une personne cette nuit, comme si la nuit était active, qu'elle produisait quelque chose. Et il dit « Maudit cette nuit qui dit « Un enfant mâle est conçu ». Il faut savoir qu'à l'époque, un enfant mâle était une source d'une plus grande joie que la naissance d'une fille. C'est comme ça, je suis désolé. Mais en tous les cas, c'était ainsi. C'était une bénédiction d'avoir un enfant mâle. Mais pour lui, c'est une malédiction, parce que l'enfant mâle, c'est lui. Et c'est lui qui souffre. Ensuite, au verset 4, il est dit « Ce jour qu'il se change en ténèbres ». Ce qui est impressionnant, c'est que dans ces trois versets-là, de 4 à 6, il utilise 5 fois le mot « ténèbres », mais ce sont 5 mots hébreux différents, comme s'il voulait vraiment insister et bien faire comprendre son cas, ce qu'il est en train de traverser. Et donc il dit « Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. » Là, c'est le mot « ombre » là pour en hébreu, c'est « kimrir ». Et en fait, ça parlait souvent de l'ombre qui accompagnait une éclipse, ou une tornade, ou des nuages. Vous savez, quand il y a une tornade ou des nuages qui arrivent, le ciel s'obscurcit, ça devient sombre. Lui, il appelle ça une ombre. Et donc, c'est comme ça qu'il décrit son existence et le rejet qu'il a de son existence. Pourquoi ? Parce que ce qu'il est en train de vivre est lié à un cataclysme. C'est comme une tornade, c'est comme une éclipse. Et donc, il écrit que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées, là le mot « nuée », c'est en fait, au départ, le mot signifie « épouvante ». D'ailleurs, ça m'a renvoyé un texte, vous savez, que quand il y a la dédicace du temple de Salomon et qu'il y a la nuée qui descend sur le temple, les prêtres sont épouvantés, ils ont peur de cette nuée. Et donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que là, lui compare ce qui se passe à une nuée qui descend et sa vie devrait être chassée, parce que ça fait peur, c'est une épouvante en réalité. Et donc il dit que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. On sait qu'il y a des, on en rigole des fois, mais les gens qui sont nés le 29 février, ils ont leur date d'anniversaire une fois tous les 4 ans. C'est les autres années, c'est pas sur le calendrier. Ben lui, il aurait aimé que cette date ne soit pas sur le calendrier. Parce que du coup, son existence ne serait pas apparue sur la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il dit ce jour qu'il se change en ténèbres, ça nous fait penser à la création. Parce que lui-même, quand il est venu au monde, il a été créé, il y a eu une apparition de Job sur la terre. Et c'est comme s'il renversait le verset. En fait, Dieu a dit que la lumière soit, mais Job aurait préféré que le jour de sa naissance, ça soit que les ténèbres soient, que la mort soit, que la non-existence soit. Donc en fait, il s'oppose à l'acte créatif de Dieu s'agissant de sa propre existence. Et au lieu que ça soit que la lumière soit, ça aurait dû être que les ténèbres soient, et du coup, il n'y aurait rien eu, et Job ne serait pas venu sur la terre. Vous voyez, on voit quelqu'un qui est en train d'être rongé. Et quand on pense à tout ce qu'il est en train de traverser, on le comprend très bien. Et donc on voit que cet homme est tellement rongé par ce qu'il est en train de vivre que tout est synonyme de néant dans son âme. Vous voyez, il aimerait que plus rien n'existe. C'est le désespoir complet. Il dit que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Vous savez, c'est un peu comme des fois quand on est à l'école et vous avez peur d'être interrogé. Vous faites pas tout petit parce que si vous vous cachez un peu trop, il va vous remarquer, le prof. Mais alors, on se comporte de la façon la plus neutre possible, vous savez, hein, on ne nous remarque pas. On le fait un peu décontracté, enfin voilà, un peu neutre. Et lui, il aurait aimé que le jour de sa naissance soit comme ça, c'est-à-dire que Dieu le remarque pas et qu'il passe à côté, vous savez. Il n'y a rien à faire ce jour-là. Ce qui fait qu'il n'accepte pas d'être dans le plan de Dieu parce qu'il ne le comprend pas. Et notre désespoir vient souvent de là. Le désespoir vient des situations de la vie que nous traversons, et donc il y a une lourdeur qui s'appesantit sur les épaules. Mais c'est comme on n'a pas en plus la réponse du pourquoi Dieu permet telle ou telle chose, ça renforce soit notre culpabilité, soit notre désespoir. Et comme lui ne comprend pas le plan de Dieu, du coup, il voudrait effacer ce qui est en train de se faire, parce que pour lui, ça n'a aucune raison d'être. Il n'y a pas d'objectif. C'est néant. C'est pour ça qu'au verset 7, il dit que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Là, le mot stérile, c'est assez fort en fait en hébreu, c'est le mot pierreuse. C'est comme de la pierre. Que cette nuit soit comme de la pierre. Et c'est vrai que sur la pierre, on peut rien faire pousser. Les plantes, de temps en temps, arrivent un petit peu à s'agripper. Il y a de la mousse, mais on ne laboure pas la pierre, on ne sème pas sur la pierre et on ne récolte pas sur la pierre. Donc pour lui, c'est ça. C'est-à-dire que cette nuit devienne stérile, c'est-à-dire pierreuse, et que l'allégresse en soit bannie. C'est intéressant parce qu'en hébreu, ça parle... On pourrait traduire par que l'allégresse ne perce pas la nuit. Parce que quand il y a une naissance, même si c'est la nuit, ou même si la situation est difficile, qu'on soit en guerre, il y a une naissance, c'est toujours quand même une flamme d'espérance, c'est une source de joie. Et donc ça transperce la nuit quand il y a une naissance. Mais là, c'est dit que l'allégresse en soit bannie, c'est-à-dire que l'allégresse ne perce pas la nuit. Parce que l'allégresse, elle est liée à mon avènement, à mon existence, et je ne vois pas mon existence comme synonyme d'une lumière dans la nuit. Je veux pas qu'elle perce dans la nuit. Vous voyez un petit peu le rejet de sa propre vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, d'abord, au niveau poétique, c'est très bien écrit, mais encore une fois, Dieu écoute ce que Job est en train de dire. Et même si Dieu n'est pas d'accord avec ce que Job conclut, ou ressent, ou dit, mais Dieu est là, et Dieu est à l'œuvre. Lui, il connaît la réponse au pourquoi. Il attend son heure. Dieu, lui, est aveugle. Il est dans les ténèbres totales. Mais même au plus profond de ces ténèbres, Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas inconscient. Et même Dieu a décidé que ça soit écrit dans un livre. C'est quand même extraordinaire quand on y réfléchit. Et pas pour rendre orgueilleux notre ami Job, non, c'est simplement pour nous dire aujourd'hui, « mes amis, je sais ce qui se passe. Alors je vais vous expliquer, ou vous comprendrez un jour, ou je vais traiter la situation, peu importe ce que Dieu a à faire ou à penser. » Mais Dieu prend en compte ce qui se passe. Nous avons un Dieu qui est conscient de ce qui se passe. Et il a voulu que ce que Job est en train de traverser soit écrit. Et au verset 8, il dit « Qu'elle soit maudite, cette nuit donc où il est né, par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. » Là, en fait, il parle des sorciers. Des devins ou tous ces idolâtres à l'époque. Ça ne veut pas dire que lui était d'accord, hein, mais comme encore une fois il écrit un poème, il est en train d'expliquer un petit peu la profondeur de ce qu'il est en train de traverser. En fait, là, il y avait une tradition dans la mythologie de l'époque. Alors le Léviathan, il y en a qui disent que c'est un crocodile, ou alors que c'était peut-être un animal préhistorique, plus gros qu'un crocodile. Certains pensent que c'était une bête mythologique à sept têtes, mais peu importe, en tout cas, c'est à minima un crocodile, un dinosaure, un monstre, ce que vous voulez. Et dans cette mythologie de l'époque, les devins invoquaient, soi-disant, ce Léviathan, qui, par sa puissance, pouvait provoquer une éclipse en avalant le soleil et la lune. Donc c'est un monstre énorme qui mange le soleil et la lune. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de dire, notre ami Job ? C'est que ces personnes-là qui invoquent ce Léviathan, il dit que cette nuit soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui servent exciter, qui savent exciter le Léviathan. C'est-à-dire que si le Léviathan avait mangé le soleil et la lune, cette journée n'aurait pas existé. Et là aussi, on a un parallèle avec la création. Dieu créa le grand luminaire et le petit luminaire. Et en créant cela, il a créé en fait des êtres que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Mais Job aurait voulu qu'au moins pendant 24 heures, le soleil et la lune n'existent pas pour que lui n'existe pas, pour que cette journée n'existe pas. Et ensuite, au verset 9, il est dit ceci, « Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attend en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. » Quand il parle à que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, il parle encore une fois de la nuit de sa, là il parle de la nuit de sa conception, non pas de la nuit de sa naissance, mais de la nuit de sa conception. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, et il compare tout cela et à les paupières de l'aurore. Vous savez ce que c'est les paupières de l'aurore? C'est le lever de soleil. Quand l'aurore pointe, il y a les premiers rayons du soleil qui arrivent, et il compare ça à des paupières qui ouvrent les yeux le matin. Et tout ça, il voudrait que ça disparaisse. Et puis ensuite, il va parler de son souhait d'être mort-né. Au verset 11, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter ?» Ça, la sens, c'est qu'on a une progression là. Mourir dans le ventre de sa mère, mourir au moment où il sort des entrailles de sa mère, et puis la troisième chose, c'est trouver des genoux pour me recevoir. Là, il y a deux interprétations. C'est soit la mère qui prend son enfant sur les genoux, mais il y avait aussi, souvent il y a une tradition, c'est que le père n'était pas loin, et on déposait l'enfant mâle sur les genoux du père pour montrer qu'il était de la même lignée. En Genèse 50, vous verrez que Joseph a pu avoir sur ses genoux ses petits-enfants. Et c'est cette tradition-là qui était exercée à l'époque. Et donc on voit que les quatre phases, dans le ventre de sa mère, il aurait aimé mourir. Au sortir du ventre de sa mère, il aurait aimé mourir. Il aurait aimé qu'on ne le place pas sur les genoux de quelqu'un. Et il aurait aimé ne pas être allaité. Et c'est comme ça, comme un rouleau compresseur. C'est-à-dire qu'on a Job, là, qui dépose son âme devant Dieu. Parce qu'encore une fois, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et il imagine une forme de tranquillité à ne pas exister, à un repos. C'est ce que l'expression « genou pour me recevoir » signifie. C'est qu'en général, l'enfant, on le posait pas sur les genoux de la maman ou sur le genou de l'ancêtre, du mâle. Quand il était blessé ou lorsqu'il criait, c'est que l'accouchement était terminé, l'enfant fatigué dormait et on le déposait sur les genoux d'un de ses parents. Et ça, ça parle du repos. Et même ce repos, il n'en veut pas, parce qu'il n'en a pas dans sa vie. Il n'y a aucun espoir pour lui, en fait. Il n'y a aucune solution. Tout ce qui, dans son existence, pourrait le réconforter, il le rejette. Parce que ce qu'il vient de traverser surpasse de loin tout ce que la vie pourrait lui offrir maintenant. Croit-il ? Je ne dis pas qu'il a raison. Mais c'est ce qu'il ressent. Parfois, quand on conseille des gens, quand on traverse des périodes difficiles, on peut nous conseiller ou nous parler de ce qu'il y a de bien par ailleurs, que tout n'est pas noir, que même si, mettons, on a un enfant qui marche pas correctement avec Dieu ou qui fait plein de bêtises, mais les autres sont très obéissants. On a beau essayer de nous encourager, mais il y a comme une vague là qui peint tout en noir. Un peu comme un enfant, quand il fait un caprice parce qu'on lui a retiré un jouet ou quelque chose, vous pouvez essayer de l'amadouer avec plein d'autres promesses, ça ne marche pas, il continue de pleurer parce qu'il est focalisé sur une chose. Sauf que là, évidemment, Job, il n'y a pas qu'une seule chose qui l'accapare et qui l'accable. Il y en a énormément. Et ensuite, si on continue un petit peu, il est dit au verset 13, c'est dans cette hypothèse où il ne serait pas né, « Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. » Là, il dit quelque chose d'assez vrai, c'est que dans la mort, il y a une égalité qui s'installe. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on ait été malade ou pas, qu'on meure jeune ou vieux, on est dans le même état, on est mort. Et donc il se dit, ben voilà, le monde est plein d'injustices, je subis plein de choses, mais si j'étais mort, je serais même avec les rois qui eux aussi sont morts, donc tout serait au même niveau, et il n'y aurait plus de vagues. Donc mourir à la naissance aurait été préférable pour lui, et s'il était mort, il pense à ce moment-là qu'il aurait du repos. Et vous savez, quand on voit des gens qui se suicident, très souvent ils le font parce qu'ils cherchent un repos dans leur âme. Et ils pensent que ce qu'il y a après la mort sera de toute façon mieux que ce qu'ils sont en train de traverser. C'est ça la souffrance humaine aussi. Alors parfois c'est à cause des mauvais choix de vie, à cause de la subjectivité, de l'orgueil, du péché en règle générale, je veux dire, mais en même temps il y a une souffrance tellement grande que les gens pensent que la mort sera une délivrance. Nous savons que c'est pas vrai, bien évidemment, nous savons que c'est pas vrai, sauf si on a rencontré Christ, mais ça veut pas dire pour autant qu'il faille se suicider, bien entendu, mais parce que nous avons reçu le prince de la vie, on n'a pas reçu le prince de la mort. Mais on peut être reconnaissant, nous, cet après-midi, de méditer sur une pensée, c'est que nous avons trouvé le repos en Jésus-Christ. Ce repos en celui qui connaît toutes choses, qui connaît nos souffrances, qui connaît nos difficultés, qui connaît notre passé, qui connaît notre présent, qui connaît notre futur, qui a une ribambelle de promesses pour nous et qui nous propose durant cette existence de faire un chemin avec lui et non pas contre lui, et de continuer d'espérer contre tout désespoir, de marcher par la foi et non par la vue, de croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dieu nous propose une vision, une image bien différente de celle que nous expérimentons parfois. Et lever les yeux vers le ciel, c'est pas uniquement, ça signifie lever les yeux vers Dieu, mais ça signifie aussi lever les yeux vers ce que Dieu nous propose au milieu de nos souffrances, au milieu de nos interrogations, au milieu de nos pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi ? N'essayons pas d'avoir des réponses à des questions qui sont peut-être pas les bonnes. Mais regardez les réponses que Dieu nous a données au travers de sa parole et par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons énormément de réponses en réalité. Nous sommes équipés, nous les saints. Verset 16, il continue en disant, en souhaitant ce jour, il dit « Je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché. » En fait, le « caché », ça signifie « enterré. » « Comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. » Là, ne s'agitent plus les méchants. Le verbe « agiter » est d'ailleurs faible en français. Ça parle plutôt d'un déchaînement de haine, de violence. Donc il dit « Là ne se déchaînent plus les méchants, et là reposent ceux qui sont fatigués et sans force. » Vous savez, Dieu nous a donné une autre solution, Jésus-Christ. Jésus nous a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Je vous donnerai du repos. Venons vers celui qui a toutes les réponses. Qui a toutes les réponses dans l'éternité, pour l'éternité future, mais qui a aussi toutes les réponses, peut-être même à court terme. Vous savez, pourquoi Joseph a eu la vie qu'il a eue? J'imagine qu'il a compris, non pas à la fin de sa vie, parce qu'il a continué de vivre après, mais en tout cas à la fin du livre de la Genèse, il a compris pourquoi il a été trahi, pourquoi il a été dans un puits, pourquoi il a été vendu, pourquoi il a été trahi avec Potiphar, pourquoi on l'a oublié dans un cachot, pourquoi il s'est retrouvé premier ministre en Égypte. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et un jour, la vision qu'il avait reçue étant jeune s'est accomplie, et il a pu nourrir sa famille et la sauver de la famine. Et là, c'est une réponse sur la terre. Mais il y a des réponses que nous n'aurons même pas sur la terre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de réponse. On peut pas dire d'un côté, nous aurons la vie éternelle, il y a une autre vie qui nous attend, et de ne pas y insérer dans cette vie future des réponses, des objectifs, notre identité, une raison d'être. C'est-à-dire que la vie éternelle, la vie après la mort, c'est pas simplement un concept vaseux, c'est quelque chose de tangible, de réel. C'est-à-dire que nous allons continuer de vivre notre vie avec Dieu. D'une autre manière, mais ça va continuer. En fait, on va pas mourir. On va changer d'état, on va changer d'endroit, j'en sais rien. Mais toujours est-il que si on continue, on commence à marcher par la foi maintenant, on va ensuite simplement rentrer dans ce que nous avons toujours cru. Et du coup, dès maintenant, nous devons accepter le fait que la réalité de notre existence est liée au but final qui est au-delà de cette existence présente. Et les réponses à nos pourquoi sont très souvent inscrites dans l'éternité future. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons en permanence ça. Pourquoi Étienne est lapidé? On n'a pas toutes les réponses. Vous avez un gars brillant, engagé, l'Église commence à peine, c'est un ouvrier utile, et Dieu permet qu'il soit lapidé. Mais qui est spectateur de cette lapidation? Saul de Tarse, le futur Paul, qui respirait le meurtre, il est dit dans le livre des Actes. Ne pouvons-nous pas penser que Paul a été interpellé par la réaction d'Étienne devant la mort, devant cette vision de Jésus-Christ, quand le ciel s'est ouvert à lui, et qu'il a prononcé la même phrase que Jésus-Christ, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que Paul n'a pas été interpellé? Est-ce que ça n'a pas été déjà le début du travail de Dieu dans la vie de cet homme? Et puis il y a peut-être d'autres réponses. Et d'un autre côté, on peut des fois se mettre à la place de ses amis à l'époque en disant « Mais pourquoi le Seigneur permet ça? Pourquoi Étienne est lapidé? Pourquoi Paul passe sa vie en prison, pas sa vie, mais en tout cas une bonne partie de sa vie en prison? Ça n'a pas de sens à vue humaine. » Pourquoi David est oint par Samuel tel jour et il va lui falloir attendre plus de 7 ans pour être sur le trône et passer au travers de diverses persécutions? Pourquoi? 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 Mais Dieu sait tout. Dieu sait tout. Il sait tellement tout qu'il connaît aussi nos questions. Il connaît nos questions. Il embrasse notre existence. Il compatit, il intercède pour nous, il s'identifie à nous. Et la dernière partie, je disais, c'est qu'il souhaitait mourir maintenant. Au verset 20, nous voyons ça. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor. Vous voyez la force de ce verset-là? Des gens qui convoitent la mort plus qu'un trésor. C'est comme si pour lui, toutes les richesses du monde se trouvaient dans la mort. l'espérance ultime, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Vous voyez, c'est pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir? Pourquoi je n'existerai pas, je serai couché comme un avorton? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et quelqu'un d'autre a posé cette question. Et nous savons qui c'est. C'est Jésus-Christ. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, j'ai trouvé ce parallèle très fort. Pourquoi? Parce que intellectuellement, Jésus savait pourquoi. Il l'annonce avant, il explique qu'il faut qu'il meure. Je dirais, il enseigne les disciples. Quand un disciple doute, ou quand Pierre n'est pas d'accord avec le fait qu'il faille qu'il aille à la croix, Jésus le reprend. Arrière de moi, Satan. Mais Jésus, sur la croix, était tellement désespéré. Il souffrait tellement dans son esprit, dans son âme, dans son corps, qu'il, cette souffrance surpassait toute la connaissance qu'il pouvait avoir en tant qu'être humain du plan de Dieu. Et le cri qui est sorti, c'est « Pourquoi ?» Lui qui savait tout, lui qui voyait tout faire du Père, et il le reproduisait, lui qui a accompli des miracles par la puissance de l'Esprit, il a vécu quelque chose de tellement fort pour pouvoir nous sauver. Et il savait que c'était le seul moyen de nous sauver. Il avait cette réponse, mais cette souffrance l'a amené à dire pourquoi. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. Alors c'est un peu différent, mais pour vous montrer un petit peu le ressenti que j'avais vécu à l'époque. J'avais 4 ans, j'avais souvent des problèmes aux oreilles, j'allais chez l'otorhino pratiquement toutes les semaines, et puis un jour j'ai eu une otite à l'oreille gauche, et en même temps j'étais malade, je ne sais pas, je devais avoir une grippe ou une angine, je ne sais pas, j'avais 42 fièvres, et ce qui fait qu'on ne pouvait pas m'endormir, et en même temps il fallait absolument me faire une parasynthèse, c'est-à-dire qu'on perce l'abcès qui est à l'oreille. Et donc c'était un samedi soir, j'avais 4 ans mais je me souviens de tous les détails. Et vous allez comprendre pourquoi après. Donc on arrive dans le cabinet, mes parents étaient là. L'otorhino m'ausculte comme d'habitude. Moi j'étais habitué, donc pas peur, hein, même pas peur. J'avais très mal à l'oreille mais j'avais pas peur. Et donc il m'ausculte. Et puis à un moment donné, je le vois discuter avec mes parents dans le coin du cabinet. Bon, je fais pas attention, j'étais toujours sur le siège. Puis on me demande de me lever, donc dans ma tête, super, c'est terminé. Mon père s'assoit à ma place. Alors là, ça commençait déjà à m'interpeller. Je dis, tiens, il est malade aussi. Et puis là, on me demande, justement, de me mettre sur ses genoux. Donc je m'assois sur ses genoux, et là, je sens ses jambes qui entourent mes jambes, comme ça, devant mes tibias. Ses grosses mains qui tiennent les miennes, et je me rappelle simplement de 2 images. J'ai vu une flamme s'approcher de l'oreille, une énorme explosion dans ma tête, ça a irradié de douleur toute ma tête, et j'ai vu comme une vague liquide couleur, c'est comme la peau d'un léopard ou la peau d'une vipère aspic, c'est un mélange des deux. Et je suis tombé dans les pommes, je me suis réveillé dans le vestibule quelques minutes après, je ne sais pas combien de temps après. Et assez rapidement, je me suis posé la question, alors que j'avais la réponse en réalité. Mais pourquoi mon père a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Je savais que c'était pour m'opérer, que c'était, il y avait une nécessité, qu'on ne pouvait pas m'endormir, je savais. Et quand je vous dis ça, c'est que je lui en voulais même pas, parce que comme j'avais la réponse, je pouvais pas lui en vouloir. Et mais la souffrance était tellement grande que je ne comprenais pas pourquoi il avait pu permettre que je souffre ainsi, même s'il y avait des bonnes raisons. Et c'est pour ça que je vous raconte cette anecdote, parce que il y avait ni haine, et en même temps, la réponse ne suffisait pas, parce que la douleur effaçait toutes les réflexions qu'on pouvait avoir. Et quand vous avez des gens, des fois, qui se suicident, c'est ça, c'est que ça va au-delà de tout le raisonnement. Quand des gens dépriment, vous pouvez essayer de leur expliquer, ça va au-delà du raisonnement. Et Jésus, quand il a crié « Pourquoi ?», ça allait au-delà de toute la théologie qu'il pouvait y avoir dans sa tête. « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et vous savez, dans ces moments de souffrance, nous vivons bien évidemment de la solitude. Et Job, pourquoi ? Parce qu'il n'y a que lui qui vit ça, et puis après, quand on va voir le dialogue avec ses amis, il va vraiment se sentir seul. Quand il va y entendre ce que sa femme a à lui dire, il va vraiment se sentir seul. Et la relation avec Dieu n'est pas bonne, donc il est vraiment seul. Et cette solitude, Jésus la comprend et il l'a vécue. Il a crié ce pourquoi. Il a crié ce pourquoi. Et c'est pour ça que nous avons un Seigneur qui peut compatir à nos faiblesses, qui pouvait compatir à ce que Job était en train de traverser, même s'il y avait un plan. Nous, on lit le livre de Job, avant de lire le chapitre 3, on a déjà lu le chapitre 1 et 2, et la réponse, on l'a. Et Job, il y a une guerre entre Lucifer, enfin, l'ex-Lucifer, entre Satan, le diable et Dieu, et tu es l'enjeu d'un combat spirituel. Voilà la réponse. Et du coup, pour nous, tout va bien. Et Job, d'ailleurs, ne mentionnera pas une fois le diable. Parce que il ne connaît pas le plan, il ne voit pas la guerre spirituelle. Et c'est pour ça qu'entre autres, il pose des pourquoi. Et on en parlera une autre fois, mais soyons sensibles au combat spirituel dans notre vie. Souvent, on se pose des pourquoi parce qu'on n'intègre pas la guerre spirituelle dans notre existence personnelle. Il y a des enjeux spirituels, même au travers de notre vie, aussi infime semble-t-elle. Et Job, là, est au milieu d'une guerre spirituelle, mais il ne le sait pas. Mais Dieu le sait. À la croix, Jésus savait très bien qu'il était au milieu d'un enjeu spirituel énorme. Il avait demandé quelques heures avant qu'on prie pour lui dans le jardin de Gethsémané, parce que Satan faisait tout, il y avait une horde de démons contre lui. Et donc il était conscient de tout ça, mais sa souffrance était tellement grande qu'il a dû exprimer ce pourquoi de vive voix. « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il y a eu la réponse. Et la réponse, elle est dans Hébreux 12, versets 1 et 2. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, » donc les témoins, c'est les Job, c'est les David, c'est les Paul, c'est les Étienne, ce sont tous ces témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière, là, ça parle d'un projet, d'une vision, d'un avenir. Et quel est-il ? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et c'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est que la réponse au pourquoi de Jésus-Christ, c'était la joie qu'il avait, que nous lui appartenions. Et nous, aujourd'hui, nous avons le privilège d'être un peu plus informés que Job. Nous en savons un peu plus sur la guerre spirituelle. Nous savons ce qui nous attend après la mort. Nous savons ce que c'est que le vrai repos. Nous savons sur qui nous pouvons compter, celui qui a eu la victoire sur la mort. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être malades, souffrants, déçus, seuls, abandonnés. On ne comprend pas les pourquoi de notre existence. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi même il nous a permis de faire le mauvais choix? Il y en a qui se posent souvent cette question. Pourquoi le Seigneur a permis que je fasse ce mauvais choix? Mais au-delà des pourquoi, il y a une réponse assurée. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Que Dieu a préparé des choses magnifiques pour ceux qui l'aiment. J'espère qu'on n'en est pas à un point de traverser tout ce que Job traverse. Mais parfois, on est des fois dans cet état-là. où on se dit pourquoi suis-je là ? Pourquoi ces choses doivent être vécues ? Et Dieu nous dit parce qu'il y en a d'autres à vivre. Et pour que tu puisses les vivre, il faut que tu passes par celle-là. Et je vais te bénir. Tout comme il va donner le double de la bénédiction à Job à la fin du livre. Que Dieu vous bénisse.